Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog Lire et Faire Lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.
Jean-Claude Mourlevat, aux éditions Thierry Magnier. Désormais, on ne présentera peut-être plus Jean-Claude Mourlevat que comme le lauréat 2021 du prix Nobel de littérature jeunesse. Mais depuis longtemps déjà, il nous enchante par ses récits à la saveur onirique qui ont le charme et aussi la gravité des contes dont la portée, c'est bien connu, est universelle. J'ai choisi de vous présenter quelques-uns de ses titres édités dans les années 2000 par Thierry Magnier dans sa très intéressante collection « Petites poches ». « Petites poches » rassemble, comme son nom l'indique, des petits livres de 10 cm par 15 à la mystérieuse couverture seulement graphique, jamais figurative mais toujours très colorée. Il raconte des histoires fortes sur le monde actuel ou de fiction, voire de science-fiction, en moins de 50 pages et pour moins de 5 euros. La collection propose aux jeunes amateurs d'histoires courtes des textes de qualité, rondement menés, signés d'auteurs aguerris et même prestigieux. Plusieurs ouvrages ont reçu des prix littéraires ou ont été sélectionnés pour le prix des Incos, par exemple. Et c'est donc dans cette collection que Jean-Claude Mourlevat a signé 3 titres qui commencent tous par l'expression « l'homme » et promettent à chaque fois un message comme il en a le secret. L'homme qui ne possédait rien nous entraîne dans le désert au rythme des pas d'un chameau qui un soir parle à un homme assis sur la dune, occupé à contempler les étoiles et à laisser couler le sable entre ses doigts. « Voudrais-tu que je te prenne sur mon dos et que je t'emporte jusqu'à Topka ?»« Non, » dit l'homme, après une hésitation. « Je ne veux pas. Je préfère rester ici. »« Alors je vais te poser la question autrement, » reprit le chameau. « Voudrais-tu savoir ce qui arriverait si tu montais sur mon dos et si tu venais à Topka ? C'est une grande faveur que je te fais. »« Ah, ça oui, je veux bien, » répondit l'homme. « Alors, » dit le chameau en s'agenouillant, « monte sur mon dos et tu le sauras. » Après 2 jours et 2 nuits, ils atteignent la ville de Topka. C'est alors que le chameau déclare « Je ne vais pas plus loin. Je devais seulement t'amener jusqu'à cette colline. Prends ce chemin qui descend, il te conduira tout droit en ville. Moi, je ne bouge pas d'ici. Je t'attends. Et n'oublie pas. Je te reconduirai à ton oasis dès que tu le souhaiteras. Dans 1 jour ou dans 10 ans, il suffira que tu me rejoignes ici et nous y retournerons ensemble. Va, sans crainte. » Il lui assure qu'il trouvera fortune à la condition de travailler dur. Ce que deviendra notre homme dans la ville de Topka, et pourquoi et comment il retrouvera le chameau, vous l'apprendrez assez vite, puisque vous êtes entré dans un conte accéléré, qui n'en garde pas moins sa valeur de conte initiatique, destiné à faire réfléchir sur les vraies richesses. L'homme à l'oreille coupée, c'est un vieux marin de Norvège qui entreprend de raconter son histoire dans l'auberge où il s'enivre régulièrement le soir. À la question « Comment as-tu autrefois perdu ton oreille ?» Il répond « Ah, ça remonte à loin, » disait-il. « J'étais encore un petit garçon. J'avais 9 ans à peine, alors voyez, un cirque ambulant est passé dans notre village. Ça coûtait pas très cher, mais nous étions pauvres et mes parents ne pouvaient pas me payer l'entrée. Alors le soir de la représentation, j'y suis allé en cachette. Je me suis faufilé sous la toile du chapiteau, ni vu ni connu, et j'ai pris place dans les gradins.
C'était plein à craquer. La musique assourdissante, l'odeur forte des animaux, tout ça, j'étais comme ivre. Il y a eu les chevaux qui tournaient, puis les acrobates voltigeurs, puis les petits caniches dressés. J'en restais la bouche ouverte. Quelle émotion pour moi qui n'avais rien vu.
Serait-ce au cirque que notre conteur du soir aurait perdu son oreille? Ou bien lui a-t-elle été arrachée par sa fiancée de ses propres dents? À moins que ce ne soit à l'armée, lors d'une périlleuse mission autour de laquelle la température est descendue à moins 60 degrés.
Au retour, ça se gâte. On est pris dans une tempête. On se perd. On revient sur nos pas, on tourne en rond et on finit par se coucher dans la neige, serrés l'un contre l'autre. Le vent hurlait tellement qu'on s'entendait à peine. De temps en temps, on se criait « Ça va, toi ?» et l'autre répondait « Ça va !» En réalité, on était sûr d'y rester. Mais au matin, on a entendu des voix. « Oh, les gars, vous êtes morts !» On n'était pas morts, on était juste enfouis sous la neige. Un des soldats nous avait marché dessus par hasard. Ils nous ont chargés sur leurs épaules et ramenés au camp. Le capitaine se pointe, il nous félicite, et puis il a voulu imiter Napoléon qui pinçait l'oreille de ses grognards pendant la retraite de Russie. Il avait vu ça sur des images, sans doute. Bon, il prend la mienne, entre le pouce et l'index, et il la secoue un peu. Seulement, elle était gelée, ça a fait clink.
Pendant 6 ans, le vieil homme a raconté chaque soir une histoire différente. Vous ne connaîtrez bien sûr qu'à la fin la véritable version. Et vous apprécierez au passage ce talent supplémentaire de l'auteur, la force tranquille de son humour. L'homme qui levait les pierres rend hommage à des qualités telles que la volonté et la patience incarnées par le petit Peyo, 12 ans, maigre comme un poulet plumé, dit l'auteur. Cet enfant chétif est fasciné par Rupert Oisa, surnommé l'homme le plus fort du monde, un leveur de pierres que tous viennent chaque dimanche admirer sur la place du village.
Il était immense et velu. Il ressemblait à un gladiateur avec sa large ceinture de cuir enroulée 15 fois autour du ventre, ses épaulettes de métal, ses sandales et son crâne rasé. Il ne regardait personne. Dans un silence incroyable, même les chiens se taisaient, il se campait derrière la boule de pierre, fermait les yeux quelques secondes, s'avançait vers elle, lui parlait, la caressait des deux mains, l'enlaçait de toute son envergure, la pressait contre lui. Puis il se raidissait soudain et il la soulevait. Il la soulevait! Il la maintenait un peu contre sa poitrine, la faisait passer sur son épaule droite et rouler sur sa nuque. Puis il s'avançait de 3 pas, les bras largement écartés du corps, et se tenait quelques secondes dans cette posture face au public. À cet instant, on croyait voir, surgi de l'Antiquité, le géant Atlas portant la terre.
Peyo décide de demander au géant qu'il lui apprenne à soulever cette pierre qui pesait le double de la pierre la plus lourde jamais soulevée dans ce pays d'hommes forts. Mais c'est un tout autre art que Rupert va enseigner à Peyo. Ses leçons lui paraissent incompréhensibles, mais le garçon persévère malgré la souffrance physique que lui infligent ses entraînements étranges, durant lesquels il ne touche jamais la pierre. Pourtant, un jour, le géant déclare « Dimanche prochain, tu soulèveras la pierre à ma place ».
Peyo faillit en tomber à la renverse.
« Quoi ? La pierre ? La grosse pierre ? Mais je suis pas entraîné, je... »
La leçon est terminée pour aujourd'hui, l'interrompit Rupert. Tu peux t'en aller.
Peyot rentra chez lui en maudissant cet homme qui ne disait jamais ce qu'on attendait.
Il se moque de moi, pensa-t-il. Il ne m'a rien appris. Et maintenant, il veut me ridiculiser en public. Je n'irai pas.
Peyot se rendra pourtant sur la place, et le silence se fera, et c'est alors que le miracle s'accomplira. Car Peyot se découvrira, en même temps que le public le découvrira, un autre don, un don que Rupert lui avoue n'avoir lui jamais eu. La chute est bien sûr aussi inattendue que réjouissante. Ne vous en privez pas.
Bonjour à tous. Je vous propose un album qui s'appelle « Le bon côté du mur » de John Hadji, édité par Gallimard. C'est un album grand format dont la annonce « Au milieu de ce livre, il y a un mur. » Un mur, encore faut-il être, comme le titre le suggère, être du bon côté de ce mur. Et alors, que se passe-t-il de l'autre côté? Cet album est illustré avec des images d'allure simpliste. Il y a peu de texte, mais cela n'empêche pas de faire passer un message fort. Ne pas avoir peur de l'autre et surtout ne pas se sentir le supérieur aux autres. Tout se passe dans la lecture d'images. Et là aussi, ça vous manquera dans ce que je vais vous lire. C'est accessible à partir des 5-6 ans, mais c'est un album qui demande à être partagé et débattu. Au milieu de ce livre, il y a un mur. Et c'est plutôt une bonne chose. Le mur protège ce côté du livre. De l'autre côté du livre, de ce côté-ci, tout est calme. De l'autre côté, pas vraiment. Le plus grand danger de l'autre côté de ce livre, c'est qu'il y a un ogre. Et si jamais l'ogre m'attrape, il m'avalera tout cru. Heureusement, il y a un mur au milieu de ce livre, et je suis du bon côté de ce mur. Mais que se passe-t-il ? Allez, j'arrête là ma lecture si vous voulez savoir ce qui se passe. Et d'un côté et de l'autre de ce mur, il va falloir vous lire cet album. Et on peut toujours se demander si un mur est très utile entre ces deux côtés.
Les lecteurs, les lectrices de Lire et Faire Lire offrent aux enfants, enseignants et parents, des histoires à écouter et réécouter, mises en ligne sur le blog lire et faire lire blog.wordpress.com. Ces textes libres de droit peuvent circuler sans contrainte. Vous les retrouverez sur le site de themeradio.fr à la rubrique podcast. Bonne écoute.